Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Nous sommes le mardi 3 décembre 2024. Il est 6h avant minuit. Merci d'avoir rejoint votre rendez-vous d'actu local préféré. Elle était enfouie sous la glace depuis presque 60 ans. Une base militaire américaine créée en 1959 en pleine guerre froide vient de refaire surface. C'est la NASA qui a redécouvert le site au beau milieu de l'Arctique. Coïncidence, la ville souterraine, située à un point stratégique du Groenland entre la Russie et les États-Unis, réapparaît alors que les tensions se ravivent entre l'Occident et le pays de Vladimir Poutine. Mais ce n'est même pas ça le plus inquiétant, car au cœur du Camp Century reposent depuis 1959 des déchets toxiques. La neige accumulée pendant plusieurs décennies au-dessus de ces installations disparaît peu à peu. La fonte des glaces pourrait bien entraîner le déversement dans l'océan de résidus radioactifs issus d'un réacteur nucléaire mobile resté dans la base, entre autres. C'est peut-être bien le passé et le futur, finalement, qui aura raison de nous. Tout de suite, le flash d'Eva.
Un de nos pays voisins condamné pour crime contre l'humanité. La Belgique, ancien pouvoir colonial au Congo, s'est fait condamner aujourd'hui par la Cour d'appel bruxelloise. Ce jugement historique fait suite aux poursuites de 5 femmes métisses contre l'État belge. Arrachées à leur mère congolaise quand elles étaient enfants, ces 5 femmes ont vu leur requête tout d'abord rejetée en 2021 par la Cour d'appel de Bruxelles, selon Amnesty International. Mais elles ont fait appel de cette décision, ce qui aboutit à ce nouveau jugement tombé aujourd'hui. Lors d'une allocution d'urgence diffusée en direct à la télévision cet après-midi, le président sud-coréen a déclaré la loi martiale. Cette loi vise à administrer à l'armée sud-coréenne le pouvoir pendant un temps limité et à assurer le maintien de l'ordre en Corée du Sud. Le président Yoon Suk-yeol affirme que cette mesure est nécessaire pour protéger le pays des forces communistes nord-coréennes. Plus précisément, il souhaite, je cite, « protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments anti-étatiques ». Il n'a cependant pas précisé dans son discours quelles mesures spécifiques seraient mises en place prochainement. Les loups se sont fait déclasser aujourd'hui. En effet, la Convention de Berne, qui assure la protection de la faune, principalement en Europe, a changé le statut de l'espèce de strictement protégée à protégée. La différence peut sembler minime, mais ce changement peut induire, par exemple, une augmentation des abattages des canidés, ce qui risque de fragiliser l'espèce et les écosystèmes sur lesquels elle influe. Le Conseil de l'Europe précise que la modification entrera en vigueur dans 3 mois, sauf si au moins un tiers des parties à la Convention de Berne s'y opposent. Mais elle ajoute également que si moins d'un tiers des parties s'y opposent, la décision entrera en vigueur uniquement pour les parties qui n'ont pas formulé d'objection. C'est bon, c'est fait. Michel Barnier a déclenché un 49-3 hier pour le projet de loi des finances de la sécurité sociale. Mais à peine quelques heures après son annonce à l'Assemblée nationale, 2 motions de censure ont été déposées. La première par le Nouveau Front Populaire vers 16h30. La deuxième par le Rassemblement National à 17h30. L'heure de dépôt est importante car c'est la motion de censure des partis de gauche qui sera débattue en premier, car c'était la première. Et ouais. Il est important de noter aussi que la motion de censure du NFP sera également votée par le RN, mais qu'à l'inverse, le NFP n'entend pas voter celle du RN. Tel un phénix, la cathédrale Notre-Dame de Paris renaît enfin véritablement de ses cendres.
Oui, le monument qui figurait parmi les plus visités d'Europe va rouvrir ses portes ce dimanche. Le 7 décembre, lors de l'office de réouverture, l'archevêque de Paris, des mécènes et des membres du clergé, entre autres, seront présents. Emmanuel Macron, après avoir constaté l'avancée des travaux le 29 novembre, y assistera également. Tout comme une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement invités, dont Donald Trump. Le 47e président des États-Unis effectuera son premier déplacement à l'étranger depuis son déplacement. Contrairement à lui, le pape François avait déclaré vendredi 13 septembre ne pas vouloir faire le déplacement pour la réouverture. Le 23 novembre, le Vatican a confirmé cette déclaration. Il a également annoncé que le souverain pontife se rendrait à Ajaccio la semaine prochaine. Pour rappel des faits, le 15 avril 2019, aux alentours de 18h20, le monument historique prenait feu. Aujourd'hui encore, la cause de l'incident reste inconnue. La piste accidentelle est privilégiée. Cela a pu être causé par un mégot mal éteint ou un dysfonctionnement électrique. Le chef-d'œuvre de l'art gothique du XVIIe siècle abritait et abrite toujours de nombreuses œuvres d'art. La Sainte Couronne, un des objets les plus précieux du lieu, mais aussi une tunique de Saint Louis, avait pu être préservée. D'autres, comme les reliques de Saint Denis et de Sainte Geneviève, n'avaient pas pu être extirpées des flammes. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, la part d'œuvres d'art ayant disparu est estimée entre 5 et 10%. Tout cela sans oublier l'emblématique flèche tombée dans l'incendie. 2 jours après l'événement, Édouard Philippe, alors Premier ministre, annonçait le lancement d'un concours international d'architecture sur la reconstruction de la flèche. Cela entraînant aussi un débat, faut-il ou non reconstruire la flèche à l'identique ? Pour certaines et certains, c'était l'occasion de réfléchir à une flèche plus en accord avec l'architecture de notre époque. Il y a notamment eu l'idée de réaliser une flèche entièrement en verre, mais aussi végétalisée. Pour d'autres, il ne fallait en aucun cas changer d'architecture, et c'est finalement ce choix qui a été retenu. Un autre débat a fait couler beaucoup d'encre, faut-il ou non rendre l'accès à la cathédrale payant ? Cette proposition a été lancée par Rachida Dati, ministre de la Culture, dans un entretien au Figaro le 23 octobre. Elle propose de faire payer 5 euros les visiteurs, et cela afin de financer la restauration du patrimoine religieux. Pour beaucoup, la question concernant la différenciation entre une personne venant pratiquer son culte et un visiteur ou une visiteuse se pose. De plus, selon le sénateur Pierre Ouzoulias, cela va à l'encontre de la loi de 1905. Les bâtiments religieux appartenant à l'État, ils sont réservés à l'usage des cultes et leur accès est gratuit.
Et du lundi 9 au vendredi 13, la cathédrale sera ouverte de 15h30 à 22h, puis de 15h30 à 20h les samedis 14 et dimanche 15 décembre. Elle retrouvera ses horaires habituels à partir du lundi 16 décembre. Vous avez dû voir les affiches partout, sur les réseaux sociaux, sur les panneaux, sur les arrêts de bus. C'est l'affiche du festival.
Laisse-nous deviner.
Ah, t'as raison.
C'est quoi ? Les trans, je parie.
Comment t'as deviné,
Louise ? Je suis trop forte.
Et oui, c'est notre oui. très cher partenaire, Festival Rennais les Transmusicales. Alors on leur fait un peu de pub, mais aussi un rappel de quelques infos importantes à retenir sur le programme. Les Transmusicales commencent donc demain et durent jusqu'à dimanche soir. Ils se passent dans différents lieux comme à l'UBU, aux Libertés ou au Parc Expo et à plus de 80 artistes à sa carte. Et nous, avec l'équipe de la Radio Célab, on réalise un plateau aux Libertés, vendredi après-midi, et oui. Pour plus d'infos sur le festival, allez sur le site des Trans Musicales. Pas loin de Rennes et de ses festivals se trouve Aidé-Bazouge, une petite ville qui a incorporé en octobre dernier 2 voitures sans permis AMI, disponibles à partir de 14 ans. Voici mon reportage sur le sujet. Ce matin, Aidé-Bazouge, Sacha Desil, 14 ans, m'invite à faire un tour avec sa voiture sans permis AMI. Bon, pas de chance. La voiture n'a pas été chargée sur la station électrique d'Aidé-Bazouge. Mais Sacha m'assure que d'habitude, elle est bien pratique cette voiture.
Ça a beaucoup changé mon quotidien, je suis beaucoup plus autonome et organisée. C'est une sorte de liberté que j'avais pas avant. Donc c'est vrai que niveau organisation, ça perfectionne certains points que je n'avais pas avant.
Une deuxième station de charge se trouve au bourg de Bazouge-Souédé, à 4 km d'ici, avec comme but de connecter ces deux bourgs. Mais pourquoi pas à vélo ?
C'est vrai que c'est quand même très pratique parce que comparé à un vélo, déjà c'est plus isolé. Mais s'il y a quand même une grande différence, par exemple, s'il pleut, on peut toujours y aller.
Mais l'écologie importe à Sacha.
Le fait qu'elle soit électrique, c'est mieux. Je me dis que je contribue un peu à l'écologie à ma façon, quoi.
Assurance, autonomie, liberté, écologie. Mais un frein reste tout de même présent, selon Jérôme Desil, le père de Sacha.
De passer le permis AM, ça coûte 250 euros. C'est un budget pour un permis qui est éphémère, en fait, puisque aujourd'hui, ils passent le permis B à partir de 17 ans. C'est une réflexion qui est en cours, hein, sur comment mutualiser, financer le permis AM pour plusieurs jeunes de la commune.
J'ai pu en parler directement de tout ça avec celle qui a mis le dispositif en place, Isabelle Clément-Vitoria, la mairesse d'Aidé Bazouge.
Donc l'idée, c'était de pouvoir essayer un mode d'autopartage inspiré du dispositif Vélib. Donc pouvoir permettre notamment aux jeunes via un véhicule sans permis, un moyen de locomotion plus décarboné, de faciliter leur déplacement dans la commune. Là, il y a d'autres jeunes qui sont en cours d'apprentissage du code et de la conduite accompagnée, parce que les jeunes qui sont en conduite accompagnée peuvent y accéder.
Ce dispositif est encore expérimental pour le moment. Mais les trois intervenants nous l'ont dit, les jeunes en sont ravis. Et si les utilisateurs continuent d'augmenter, la mairesse pense rendre ce dispositif expérimental quelque chose de permanent. Merci.
Merci moi-même.
Merci moi-même.
Du reportage de qualité, Eva. Bravo.
Bravo.
Merci, de merci. Terrain.
Vous avez une maison de disponible proche de Rennes et vous voudriez qu'elle passe dans un court-métrage?
Ouh, stylé.
Et ouais, et bah c'est
bien
possible.
Avoir une
hein.
maison, oui.
Et oui, car selon le Télégramme, le studio de production Tripod Production, avec le soutien de Bretagne Cinéma, recherche une maison pour servir de décor dans un film. Mmh. Voilà la description du type de maison qu'il recherche. Tout d'abord, une maison qui serait dans un rayon de 50 km maximum aux alentours de Rennes, qui est un peu isolée, avec au moins un étage et des escaliers intérieurs de style ancien. Et avec, si possible, une cuisine séparée du salon, des chambres à l'étage, une salle de bain assez grande. Voilà.
Merci Eva, le message est passé. Et il faut contacter qui alors ? Il faut envoyer un mail.
Tripod Production.
Ok. Ouais. Sur leur site, j'imagine que tout est.
Oui.
Merci Eva. On passe à l'interview.
6h avant minuit.
Aglaé reçoit deux invités ce soir pour parler d'un spectacle qui a lieu donc ce soir, juste après l'émission, et demain soir sur le campus Villejean de l'Université Rennes 2.
En face de moi, Marie Parent, qui porte un beau pantalon bleu électrique et des lunettes rondes. Et à ma gauche, une veste noire et des cheveux courts, c'est Christophe Lechevillière. Lechevillière, c'est ça ?
Lechevillière.
Ah, pardon. tous deux de la compagnie La Morsure. Donc, ils présentent le spectacle Rouge Amer Fantasmagorie. Tout d'abord, bonsoir à vous deux. Pardon.
Bonsoir. Ouais, bonsoir.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la compagnie La Morsure, depuis quand elle existe ?
Alors, la compagnie La Morsure, c'est une compagnie de théâtre qui a été créée en 2015 et qui a pour spécificité d'utiliser l'improvisation pour créer d'autres formes artistiques qui n'estiment pas que l'improvisation se suffise à elle-même. Donc nous créons des spectacles en général qui peuvent mélanger des arts, comme dans Rouge Amer Fantasmagorie, la danse, le théâtre, les arts plastiques, ou des spectacles de théâtre mêlant improvisation et théâtre écrit.
Et donc Rouge Amer Fantasmagorie, le spectacle qui va débuter donc ce soir et jusqu'à demain. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le spectacle ? De quoi est-ce que ça va parler ?
Alors, c'est un spectacle, c'est une installation théâtrale et plastique qui parle des enfermements féminins, des violences faites aux femmes. On a utilisé la question de la maison close, la question de la prostitution, mais c'est plutôt une entrée symbolique pour parler d'une maison qui est close. C'est une maison close hantée dans laquelle évoluent des femmes. Et puis des femmes qui ont déserté, et il y a la présence d'un homme en particulier, qui est le fils de la prostituée principale. Et donc c'est un spectacle qui, comme je l'ai dit, est immersif, dans lequel les spectateurs déambulent. Il y a un dispositif un peu particulier, il y a deux espaces distincts. Donc ils seront libres et contraints, ces spectateurs et ces spectatrices. Et ils sont dans un endroit clos qui rappelle la fantasmagorie, qui est une forme de projection de lumière, qui rappelle un peu le début du cinéma aussi, qui faisait exister, animer des images. Voilà, en gros, c'est ça. C'est du spectacle vivant, mais il y a aussi toute une part d'installation plastique. Et une grande part faite aussi à la vidéo, à la projection vidéo. Donc on joue, et puis il y a de la danse, évidemment, également, ce que j'oubliais de dire.
Vous avez parlé de deux espaces distincts. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, nous dire plus précisément qu'est-ce que c'est ?
Ben, on peut les décrire, mais pas trop, en fait, parce qu'il faut garder du mystère.
Ah oui, un peu de surprise.
Ouais, c'est ça.
Peut-être qu'il y a un premier espace qui est plus contemplatif, on peut dire, qui est un espace déambulatoire avec les œuvres, justement, de Marie Parent, alias Marnichessac. Voilà, donc ça, c'est vraiment un espace de contemplation, de rêverie. Et puis le deuxième espace, qui est plus un espace où il y aura justement du vivant, davantage de vivant, et en même temps des vivantes fantômes. Donc ça va être un espace peut-être plus inquiétant.
Oui, il y a trois matérialités de femmes en fait dans cet espace. Il y a la femme minérale qui est devenue pierre en fait, qui est devenue image totalement. Il y a la femme un peu effectivement fantasmagorique qui existe par la vidéo. Et puis il y a la femme de chair et d'os qui est présente dans les espaces. Mais effectivement, ils vont hanter ces deux espaces globalement. Ils sont réunis par ça.
Dans ces espaces donc vont circuler les spectateurs et spectatrices, et à un moment donné vous allez choisir un spectateur, c'est bien ça?
Alors il n'y a pas le droit de le dire, mais c'est vrai que j'en choisis un. Non, on s'amuse avec ça. En fait, oui, on dit que c'est une passe publique, d'intimité publique à la tête du client. Oui, il y a un moment d'interaction effectivement entre une des personnes masculine du public.
Et ils auront une relation textuelle.
Et comment est-ce que sera choisie la personne? Est-ce que vous avez déjà eu des réactions particulières face à cette surprise?
Des réactions toujours... évidemment, c'est un endroit symbolique et de théâtre, donc la personne, ça a pu arriver que la personne ne veuille pas entrer dans la cabine, c'est très très rare. Mais évidemment, c'est respecté ce moment-là. Et la personne n'est pas malmenée en dehors d'une expérience symbolique d'une domination masculine, quoi.
Et est-ce que vous vous sentez à l'aise, si c'est vous qui jouez la personne qui emmène le spectateur, comment est-ce que vous vous ressentez dans ce rôle?
C'est quelque chose d'assez émouvant parce que c'est du close-up à ce moment-là. Donc on est forcément traversé par la relation, par le face-à-face. Mais nous, c'est un théâtre performatif qu'on aime bien faire. La place du public dans nos propositions artistiques, elle est très importante. On questionne toujours la place du spectateur. On estime qu'un... même si ça peut être un peu banal de le dire comme ça, mais que le spectacle doit déplacer, doit permettre au spectateur et à la spectatrice de se déplacer, d'être en mouvement. Donc il y a plein de façons de le faire se déplacer. Mais notamment, le close-up peut faire partie, le face-à-face peut faire partie des choses, le théâtre interactif peut faire partie des choses. Et il y en a d'autres, hein, mais ici, effectivement, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs cas dans lesquels le spectateur peut bouger, évoluer et se questionner et repartir avec ses questions plutôt qu'avec des réponses fermes et définitives.
La place de l'homme choisi dans la cabine, en fait, il n'est pas là pour sa propre personne. En fait, il représente un archétype masculin, même si Marie s'adresse à lui. Et en vrai, elle ne s'adresse pas à lui, elle s'adresse à tous les hommes. Donc, l'homme qui joue sur ses épaules le poids du patriarcat lui aussi quand il rentre.
Et le patriarcat, pardon, c'est encore bien d'actualité. C'est pour ça que vous avez choisi ce thème-là, pour le spectacle, aussi en rapport avec l'actualité, donc.
Oui, bien sûr, c'est des questions qui traversent, qui animent beaucoup les propositions de la compagnie, la femme sacrifiée, la femme violentée, etc. Oui, bien sûr, affreusement d'actualité, bien entendu. À nouveau, oui, c'est pas un spectacle sur la prostitution, c'est notre porte d'entrée, mais effectivement, c'est un spectacle sur les enfermements féminins, les violences faites aux femmes. Physique, symbolique, psychologique, etc., etc. Et évidemment, les violences sexuelles et sexistes.
Mmh. Et ce genre de thème, on aurait pu le mettre en scène, par exemple, simplement avec une pièce de théâtre sur scène directement. Pourquoi est-ce que, donc vous avez dit que le public avait une place extrêmement importante. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour ce choix de mise en scène?
L'expérience sensorielle du spectateur, elle nous paraît importante. En fait, ça doit être une expérience émotionnelle. Encore une fois, les propositions frontales, elles peuvent tout à fait déclencher ça. On n'est pas en train de dire que c'est l'immersion qui provoque la question sensorielle, mais d'être quand même au proche et d'être traversé par des émotions très concrètes, douces et amères. C'est ce qui nous paraît pertinent là-dessus. On aurait pu le faire différemment, mais là, je ne sais pas, Christophe.
Et puis c'est assez intéressant en même temps de s'interroger sur la place du spectateur quand il est libre et contraint. C'est-à-dire qu'une pièce sur l'enfermement féminin, quand le spectateur est libre de déambuler, ça interroge. Et jusqu'à quel point est-il libre quand il est enfermé dans la cabine avec la spectatrice. Donc c'est vrai que nous, on aime chercher des postures pour le spectateur qui lui permette lui-même d'incarner quelque chose, de ressentir, de traverser et d'être engagé. C'est un thème qui est tellement puissant, ce thème de la violence faite aux femmes en particulier, que de choisir un homme et qu'il doive endosser lui-même sa propre réflexion sur sa posture d'homme dans la société actuelle, alors qu'on lui demande finalement pas grand-chose. Ça reste quand même pour nous un moyen d'interroger plus fort.
Et en plus de ce spectateur masculin qui sera donc emmené dans la cabine, est-ce que le reste des spectateurs et spectatrices sont aussi en position de voyeur entre guillemets
Oui, absolument. En fait, évidemment, c'est pas un dispositif maltraitant pour le public. On reste dans la question symbolique et textuelle, comme disait Christophe. Mais oui, là, en fait, ça pose vraiment la question de la pulsion scopique et de la place du public. Et de, quand on va au spectacle, on est voyeur de quelque chose, on est voyant de quelque chose aussi parfois. Mais en tout cas, oui, bien sûr, ça pose cette question-là de la place de voir, d'être témoin, de ne rien faire, d'assister à de la réification de la femme et d'être témoin muet parfois. C'est aussi un des problèmes d'ailleurs. Il y a des bourreaux et des victimes dans une société patriarcale, mais il y a aussi tous les autres niveaux de témoins qu'on interroge.
On avait envie aussi que le public ressente une certaine peur, une certaine culpabilité en fait, à prendre un plaisir à regarder quelque chose, ce qui est notre cas dans la salle quand on va voir un spectacle, en même temps de regarder une femme prisonnière qui traverse des états émotionnels difficiles, ou alors qui semble voluptueux, mais finalement elle est quand même contrainte. Donc ça reste quelque chose qui est intéressant pour le spectateur de traverser aussi cette expérience-là où effectivement, il y a un certain malaise et en même temps, il y a un certain plaisir. Il y a les deux endroits qui se rencontrent parce que c'est très beau tout ce qu'on voit, ça sent bon, c'est joli. Il y a
c'est des aussi heures. Une expérience qui, à nouveau, le titre dit douce, amère, fantasmagorie, rouge, amère, fantasmagorie, ça raconte qu'il y a une douceur aussi, mais qu'elle est amère, quoi. C'est doux et amère.
Donc c'est tout un spectacle tout en symbolique.
Tout à fait. C'est bien le plus important dans tout ça, hein. C'est de, par l'expérience symbolique et physique, de venir s'interroger en profondeur sur ce qu'on a. Déjà, c'est à nouveau une expérience esthétique, mais aussi une expérience politique, on pourrait le dire.
Et aussi, donc, je ne sais même plus si on en a déjà parlé, mais il y aura plusieurs performances. Donc, si vous l'avez dit, de la danse, du théâtre.
Oui, danse, théâtre, vidéo.
La danseuse, c'est Florence Loison. Donc, qui interprète elle aussi une femme sacrifiée encore. Elle a deux performances différentes avec deux caractères de femmes différents qui subissent aussi. Et puis on a Lionel Chouin qui va lui davantage être dans le premier espace et qui performera le fils de cette prostituée. Voilà, un enfant qui joue dans une chambre étrange au milieu de ces objets. Voilà.
Ouais, qui habite un espace qui a été déserté. Ça raconte aussi le fait qu'il a été déserté, c'est que ça existe depuis si longtemps, en fait. Donc, c'est des espaces qui sont habités, mais qui sont hantés. À nouveau, c'est un espace hanté avec trois niveaux de matérialité de femme, comme je le disais tout à l'heure.
Pardon.
Moi, j'avais une question aussi, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez eu des retours de spectateurs ou de spectatrices qui ont été marqués, qui ont changé d'avis sur certaines choses, certaines pratiques en voyant le spectacle, des hommes mais pas que, qui ont été un peu déconstruits sur certaines de leurs pratiques en voyant votre spectacle?
On voit le public, les spectateurs, les spectatrices à un moment Souvent, les échanges sont juste après. Mm-hmm. Donc, ils sont plutôt dans une forme de questionnement. Mm. Ça, on sent que ça fait bouger les lignes. Ouais. Après, on ne vient pas faire une interro écrite 2 mois plus tard pour chacun, chacune, pour savoir où vous en êtes où. Mais en tout cas, on sait que se déplacer, s'interroger et sentir que le sol est finalement assez meuble et que la déconstruction, elle est aussi nécessaire, permanente. Et bien au-delà des questions qu'on pose là, et que chacun doit repartir avec son lot de questions, etc. C'est plutôt ça la réponse que je pourrais vous donner, plutôt que de dire ouais, finalement ça a changé mon point de vue. Mmh. Je pense que les femmes souffrent vraiment beaucoup. Ça vient confirmer des choses, et surtout ça vient attraper les gens à l'endroit auquel ils ne s'attendaient pas. Quoi.
On peut dire aussi que c'est pas du tout un spectacle didactique. C'est vraiment un spectacle poétique qui se vit et se ressent. Qui interroge, où l'acteur est complètement, le spectateur est complètement acteur et actif. Voilà, on travaille beaucoup, nous, sur l'association d'idées, l'association de symboles, d'images, de textes. Donc, c'est pas un spectacle prêt à penser, c'est un spectacle qui interroge.
Même si, évidemment, le propos de fond, il s'érige contre. Ça, c'est évident, les violences sexistes, sexuelles, les violences faites aux femmes et les enfermements féminins, c'est très clair là-dessus. Par contre, on veut, c'est indispensable pour nous, c'est vraiment peut-être ça la question morale, que le public, la femme et l'homme qui habitent ces espaces pendant une heure, puisque l'expérience dure une heure, sortent bouleversés, chamboulés, déplacés, en disant mais moi, à quel endroit en fait je vais pouvoir me réapproprier ça, me questionner là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas didactique, mais pourtant, évidemment, il y a un fond politique que nous, on défend.
Voilà, c'est aussi la catharsis, c'est comment le spectateur ou la spectatrice va pouvoir se projeter dans le personnage maltraité, symboliquement, encore une fois, puisqu'il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence sexuelle, sexuelle,
textuelle.
On ne voit pas
de corps humain, on ne voit pas de...
C'est simplement la mise en condition, la mise en scène de l'exposition ou de cette femme, de ces femmes, qui peut permettre à chacune et à chacun de se reconnaître, de s'identifier et de pouvoir avoir une réflexion sur ce sujet.
C'est ça, on n'est pas, y a pas de nudité, il n'y a pas de traumatisme, vous voyez, à vivre dans l'expérience.
Pas de trigger warning à donner alors, juste conseillé à partir de 16 ans, c'est ça?
Oui, pas de trigger warning. Après, bien sûr, il y a forcément des questions sur...
qui vont réveiller certaines choses chez certains spectateurs.
N'importe quel spectacle qui porte sur cette question-là peut réactiver des choses, bien sûr. Mais en tout cas, il n'y a pas d'image choquante, purement choquante, vous voyez, il y a toujours... les femmes, elles sont liées avec du fil rouge, ça c'est un élément très important de l'esthétique. Il n'y a pas de sang qui coule, c'est du fil rouge qui coule. Vous voyez,
c'est pas un spectacle trash.
Voilà, c'est pas un spectacle trash. Voilà.
Ok. Mais merci à vous deux d'être venus dans 6 heures avant minuit. On le rappelle du coup, Rouge à Mer Fantasmagorie, c'est ce soir et demain soir, 4 séances d'une heure, c'est ça? On peut rappeler les horaires?
Exactement, 18h, 18h30, 19h, 19h30 pour la dernière séance. Et en fait, ça paraît être qu'une demi-heure telle qu'on annonce les horaires, mais c'est vraiment une heure, puisque y a le dispositif fait qu'on ne disparaît pas pendant une demi-heure, mais voilà, on rentre à 18h, quand on rentre à 18h, on sort à 19h, quand on rentre à 18h30, on sort à 19h30, etc., etc.
Et c'est sur le campus de Rennes 2 à Villejean,
au PNRV, alors c'est pas au Tambour, c'est au PNRV, ce sera fléché. C'est dans le hall du PNRV pardon, qu'on accueille le public. Et voilà.
Super, merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
On passe à la chronique d'Aglaé ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Les midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et oui, une fois par mois, Aglaé, tu viens présenter Apocalypse Mémé, c'est à toi.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Apocalypse Mémé. Noël approchant, bon alors je sais c'est dans plus de 20 jours mais passons, je voulais aujourd'hui parler d'une thématique à la fois apocalyptique et en rapport avec Noël, tout en restant évidemment dans la littérature. Mais pour tout vous dire, j'étais pas très inspirée. Alors on aurait pu ensemble analyser une comptine, genre Petit Papa Noël, moi ça m'aurait fait mourir de rire, mais ça aurait pas été très sérieux. J'aurais aussi pu vous parler de contes de Noël, comme ceux de Charles Dickens, ou...
Pourquoi elle rigole ? Ne faites pas rire Aglaé, après elle n'arrive pas à s'arrêter.
Effectivement.
Ne la regardez pas.
Comme ceux de Charles Dickens, ou Les Lettres du Père Noël de J.R. Tolkien, mais je ne les ai pas lues, donc je ne vais pas faire semblant. Maintenant, entrons dans le sujet que je voulais réellement aborder. La solitude. Pas très fun.
Pour commencer, rappelons ce que c'est la solitude, si jamais vous ne connaissez pas. Hein. C'est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Alors certes...
Non, arrêtez. Respire, Aglaé, respire. Allez.
Oui, pardon. En plus, c'est pas fun, c'est sérieux.
Moment de solitude, là. Allez.
Solitude. Alors certes, c'est la définition que donne Wikipédia, mais j'ai trouvé qu'elle illustrait bien mieux ce que c'est que le CNRTL, par exemple. Enfin, vous me direz, mais quel est le foutu rapport entre la solitude et Noël ? C'est pourtant bien simple. Noël, pour beaucoup de gens, c'est censé être une joyeuse fête de fin d'année où l'on se réunit avec ses proches, sa famille et peut-être même ses amis. Ça signifie aussi plein de cadeaux, les gâteaux, la dinde, bref. Mais pour beaucoup d'autres, Noël est un jour de solitude. Les bouquins dont je vais vous parler me touchent particulièrement. Ils font partie de mes œuvres préférées et ils abordent, selon moi, largement notre thématique du jour. Alors, les puristes me diront « Oui, mais tu n'abordes pas la moitié des choses importantes concernant ces livres. » Eh bien, tant pis, ce n'est pas une chronique pour les puristes. Désolée.
Bim.
Le premier est La Métamorphose de Franz Kafka, un classique, je sais, ce n'est pas très original, je sais, mais il est incroyable. Incroyablement beau. Publié en 1912, ce roman raconte l'histoire de Gregor Samsa, un jeune représentant de commerce qui un matin se réveille et se trouve transformé en un énorme insecte. Alors, un des nombreux points positifs du livre, c'est qu'on peut l'interpréter de bien des manières, à tel point qu'un certain Stanley Alan Korngold, un grand prof de littérature, en a dénombré pas moins de 128. Alors moi, je vais vous parler de deux interprétations, hein, pas 128, désolé. Tout d'abord, la métamorphose du personnage peut signifier son désespoir, sa tristesse et sa fatigue, car il travaille énormément pour aider sa famille, qui ne le lui rend pas spécialement. D'ailleurs, cette fracture avec la famille, on la comprend encore plus après avoir lu « Lettre au père » de Kafka, que je vous conseille aussi. Ensuite, cette transformation, elle peut représenter celle de la chambre et de la famille de Gregor. Car si au début, elle semble se préoccuper de l'état de Gregor et fait une sorte de nettoyage de la chambre, à la fin, la famille le hait presque et le laisse dans une crasse monumentale. En voici un extrait qui représente bien le désintérêt et la cruauté de la famille. Il est à la toute fin, donc si comme Cyriane, qui malheureusement pour elle va lire l'extrait, et Eva, qui... Et donc si vous ne voulez pas être spoilée, bouchez-vous les oreilles.
Mort, dit Madame Samsa, en regardant la servante d'un air interrogatif, bien qu'elle pût tout vérifier par elle-même et en réalité s'en rendre compte au premier coup d'œil. C'est bien mon avis, dit la servante, et pour preuve, elle poussa avec son balai le cadavre de Gregor d'un grand coup sur le côté. Madame Samsa esquissa un geste pour retenir le balai, mais ne le fit pas. Eh bien, dit Madame Samsa, nous pouvons remercier le Seigneur.
Le second est L'attrape-cœur, écrit par Jérôme David Salinger et publié en 1951. Alors vous n'allez pas me croire, mais en vérité, l'histoire se déroule à quelques jours de Noël, donc je suis dans le thème. Dans ce livre, on suit pendant quelques jours Holden Caulfield, jeune bourge et cancre de 17 ans. Encore une fois, attention, spoiler alerte, il raconte son séjour à New York après avoir été viré de son lycée, et ses aventures dont ses sorties au bar, l'embrouille avec un certain Maurice, ou ses réflexions sur les canards de Central Park. Enfin, je vous en dis pas plus, lisez-le par vous-même. Pour ce livre, le choix d'un extrait a été très compliqué, mais en voici un plutôt qualitatif.
Bon, j'ai marché dans la 5ème avenue, sans cravate, ni rien. Et puis tout d'un coup, il m'est arrivé quelque chose de vachement effrayant. Chaque fois que j'arrivais à une rue transversale et que je descendais de la saleté de trottoir, j'avais l'impression que j'atteindrais jamais l'autre côté de la rue. Je sentais que j'allais m'enfoncer dans le sol, m'enfoncer encore et encore, et que personne me reverrait jamais. Ouah, ce que j'avais les foies. Vous imaginez ? Je me suis mis à transpirer comme un dingue. J'ai trempé mon tricot de corps et ma chemise. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'autre. Chaque fois, j'arrivais à une nouvelle rue. Je me mettais à parler à mon frère Ali. Je lui disais, Ali, me laisse pas disparaître. Ali, me laisse pas. S'il te plaît, Ali. Et quand j'avais atteint le trottoir opposé sans disparaître, je lui disais merci à Ali. Et ça recommençait au coin de rue suivant.
Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à lire ces romans. Bref, c'était tout ça pour vous dire qu'en ce moment, soyons solidaires, soyons gentils les uns et les unes envers les autres. Pensez à vos proches si vous êtes proches, et soyons généreux. N'hésitez pas, si vous en avez les moyens, à donner quelques euros à des associations. Aussi, n'oubliez pas que même un sourire peut changer une journée.
Et si jamais vous avez vous aussi besoin d'aide ou que vous ressentez le besoin de parler, vous pouvez appeler la Croix-Rouge au 0800 858 858 ou encore SOS Amitié au 02 99 59 71 71. Les appels sont gratuits. C'était Apocalypse Mémé, votre chronique littéraire apocalyptique à retrouver une fois par mois. Et merci encore une fois à Cyriane pour cette très bonne lecture des extraits.
Ouais.
Merci Aglaé, ça garantit sans fou rire, sans moment de solitude.
Bravo. Un petit message avant de se quitter.
C'est midi, la radio sauvage.
Minuit. C'est à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Oui, c'était juste pour vous dire que nous avions un répondeur vocal à 6h avant minuit. Donc vous pouvez nous laisser un message, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire vraiment tout ce que vous voulez. On rediffusera vos paroles à la fin de l'émission. Je vous donne le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Merci de nous avoir écoutés.